Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
Xavier Hamel avait de multiples raisons d'aller et venir en URSS. Il devait en effet gérer deux énormes contrats. L'un concernant la mise en route des télécommandes informatiques pour le transport du gaz russe, et l'autre la construction d'une usine de commutateurs téléphoniques dans l'Oural. Mais, prudent, il ne téléphona pas à Farwell depuis son appartement, qu'il soupçonnait d'être sur écoute, comme l'étaient beaucoup d'appartements, au point que les gens, on l'a oublié aujourd'hui, les gens étaient obligés de se communiquer leurs secrets par petit papier et sans parler. Il préféra donc l'appeler d'une cabine publique. Un rendez-vous fut pris le 5 mars 1981 devant un magasin réservé aux étrangers, la Berioska. Hamel attendit dans sa voiture, persuadé de voir se pointer un pauvre type en difficulté à qui il allait remettre un message verbal.
Histoire à la loupe, une émission de Radio Courtoisie, récit de Patrick Simon, montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Quand apparut le lieutenant-colonel du KGB, ils se saluèrent et montèrent dans la voiture.
Jacques m'a chargé de vous dire que toutes les frontières des pays membres de la communauté européenne vous sont ouvertes. La France est prête à vous accueillir si vous réussissez à passer.
Je ne veux pas quitter mon pays. Je veux travailler avec la DST pendant 3 ans. Et j'ai plein de renseignements à vous fournir.
Stupéfaction! Ce n'est pas un pauvre type qui veut fuir. C'est un professionnel averti qui veut renseigner. À travers la vitre, Vetrov jette un regard furtif dehors. L'endroit n'est pas idéal pour des rendez-vous clandestins. Un étranger venant faire ses courses pourrait amener les fileurs du KGB.
Faisons un tour en voiture, voulez-vous?
Hamel s'exécute. Il contourne le restaurant voisin. Il prend l'avenue Koutouzov. Avant de déboucher sur le quai, il tourne dans l'allée latérale et s'arrête.
Voilà. Pour commencer, je vous demanderai de transmettre ça.
À qui? À Jacques Prévost?
Mais non, à vos supérieurs.
Justement, mon supérieur, c'est M. Prévost.
Vous voulez dire que vous n'êtes pas de la maison?
Non.
Non.
Non, je ne peux transmettre ça qu'à Jacques Prévost.
Vetrov n'en croit pas ses oreilles. Dans son esprit, à l'appel d'un membre du KGB, un service secret adverse ne pouvait répondre qu'en dépêchant sur les lieux un de ses officiers, un des meilleurs en plus. Bon, mais après tout, un professionnel, naturellement, niera son appartenance au service. C'est sans doute le cas d'Hamel. Quoi qu'il en soit, Jacques saurait à qui transmettre le document. Hamel prend la feuille et la parcourt rapidement. Les notes sont manuscrites. Malgré tout ce que peut penser son interlocuteur russe, Xavier est réellement étranger au monde du renseignement. Pour lui, c'est du gribouillage sans importance.
Bon, eh bien, il se fiche de moi,
se dit-il.
Écoutez, monsieur, dans tout ce que vous avez là, vous n'apprenez rien à personne.
Il dit cela juste par jeu. Parce qu'il est français, parce qu'il croit qu'on se moque de lui. Mais maintenant, c'est Vetrov qui est piqué au vif.
Très bien. La prochaine fois, vous aurez des choses beaucoup plus intéressantes. Vous verrez.
Eh bien, d'accord. On verra.
C'est ainsi, imperceptiblement, qu'Hamel passe la ligne de démarcation, séparant le porteur d'un message d'un agent de liaison dans une affaire d'espionnage. Il est pourtant conscient que ce prolongement présente pour lui énormément de risques. Étant un commercial, il n'est pas couvert par l'immunité diplomatique et il ira en prison si le KGB met la main sur lui. Cependant, il n'hésite pas une seconde. Hamel aimait les choses risquées. et de toute façon était curieux de prendre connaissance de ces choses intéressantes promises par l'officier. Pour le rendez-vous suivant, Vetrov, qui semble avoir mis au point tout le côté opérationnel de l'affaire, lui demanda de venir au petit square derrière le musée de la bataille de Borodino. Il lui remit à nouveau des documents et proposa de le revoir le vendredi suivant. Le soir même, Hamel écrit à Jacques Prévost une lettre qu'il expédia le lendemain avec la feuille manuscrite par la valise diplomatique. Il raconte sa rencontre avec Vetrov. La première phrase résume son sentiment intime.
On se croirait dans un roman policier.
Lorsqu'ils se reverront à Paris, Prévost dit à son correspondant de Moscou
« Moi, à votre place, je n'aurais pas continué. »
Il ne veut pas dire par là que c'était d'une imprudence folle de la part d'Hamel que d'accepter de revoir Vetrov. Mais plus simplement, ce qu'il veut faire croire, c'est qu'il n'est pas de la DST. Au rendez-vous suivant, Farewell lui révéla deux noms d'espions du KGB en France. L'un d'eux est Pierre Bourdiol, ingénieur chez Thomson, responsable des pièces détachées pour le satellite franco-américain. On voit l'étendue des dégâts que cette taupe du KGB pouvait causer. Hamel tomba de haut, car Bourdiol était une de ses connaissances personnelles. La suite de l'histoire que je m'en vais vous raconter, faite de bricolage et d'amateurisme sans précaution, semble protégée par la chance. Ou par le bon Dieu, vous choisirez. Mais elle montre tout de même que l'imprévisibilité générée par l'absence de précaution peut parfois déjouer les surveillances les plus sévères. Le premier problème est celui de la photocopie de la masse de documents que Farewell remet à Hamel. Pas question de les faire à l'ambassade de France. Trop de monde, trop de bavards. Hamel trouva une meilleure solution et je lis maintenant le récit de Costine. Comme durant le week-end, il y a peu de distractions à Moscou, Hamel avait pris l'habitude d'aller travailler un après-midi au bureau. Depuis longtemps, le personnel de la chambre de commerce ne bronche plus en l'apercevant. Le planton qui, à l'entrée, doit signaler au KGB toutes les allées et venues insolites, moins que les autres. Seul, dans les locaux de Thomson, Xavier peut en profiter pour lancer à un bon rythme sa grosse Xerox pendant 2 ou 3 heures. En fait, Hamel, qui n'a reçu aucune instruction en matière de renseignement, doit tout inventer lui-même, comme Robinson sur son île déserte. Il paraît invraisemblable qu'un dilettante ait réussi le tour de force de traiter dans un pays policier comme l'était l'Union soviétique à cette époque, une taupe de cette importance. Mais c'est un fait. En allant au rendez-vous de Vetrov, Hamel ne prend aucune précaution d'usage. C'est à peine s'il vérifie qu'il n'y a pas derrière lui un homme qui se cache la figure dans son journal dès qu'il se retourne. Il a raison. La capacité de repérer une éventuelle surveillance fait partie du métier. Quand on n'est pas formé, c'est inutile et dangereux. Vous ne faites qu'attirer sur vous l'attention de ceux qui, pour vous, resteront invisibles. Alors, rencontre suivante, Vetrov apporte un dossier énorme d'au moins 200 pages. C'était probablement le fameux dossier Smirnov, responsable de la VPK, Commission Militaro-Industrielle, qui va permettre de reconstituer tout le système du renseignement technologique grâce à des documents signés par les plus hauts fonctionnaires soviétiques. Andropov en tête, à cette époque encore président du KGB. Mais pour photocopier chaque papier, il faut ouvrir le dossier, prendre le document, le dupliquer, puis le reclasser, ouvrir le document suivant, etc., etc. Xavier comprend que tout seul, il n'y arrivera jamais. Claude accompagne souvent son mari au bureau le samedi ou le dimanche. Secrétaire de formation, elle l'aide à trier le courrier, elle tape une lettre sous sa dictée ou justement elle fait des photocopies. Le hic, c'est que jusqu'alors, Xavier n'a pas soufflé un mot à sa femme de l'aventure dans laquelle il s'était embarqué. Et pour cause. Dès leur arrivée en 1979, l'air de Moscou était pour Claude chargé de suspicion. Comme beaucoup de Français, elle était convaincue qu'ils étaient en permanence surveillés, filés, écoutés. Ce qu'elle trouvait surtout ennuyeux, c'est que personne ne savait ce que l'on pouvait faire et ce qui était interdit.
« On n'avait jamais l'impression d'avoir la permission de respirer jusqu'au bout »,
dit-elle. Aussi, Claude a-t-elle tenu à dire à son mari à peu près ceci.
« Xavier, je vous préviens d'une chose. »
Le couple se vouvoie.
« Si vous vous mêlez de quelque histoire d'espionnage que ce soit, je prends ma valise et je m'en vais. »
Tel fut leur gentleman's agreement. Xavier n'avait donc pas intérêt à la mettre au courant dès le début. Mais maintenant, ça devient une nécessité. Il est vrai aussi que ça lui pesait de dissimuler des choses à sa femme. Ce n'était pas le style de leur rapport. Un événement insignifiant l'aide à passer aux confidences. Xavier devait appeler Volodia pour un rendez-vous. Il gare sa voiture près d'une cabine et va téléphoner. C'était occupé chez les Vetrov. Il fallait donc qu'il essaye encore une fois avant qu'il ne rentre chez eux et qu'il invente la raison pour laquelle il ne veut pas le faire à la maison. Xavier remonte dans sa Renault et boucle sa ceinture. Mais il ne repart que lorsqu'il a vidé son sac. Alors pourquoi Claude Hamel n'a-t-elle pas mis à exécution sa menace ? Costine le lui demande 14 ans plus tard. « Je n'en sais rien, parce que j'ai pensé que mon intérêt personnel devait passer après. » Mais elle sent aussi qu'il leur arrive quelque chose d'extraordinaire, de passionnant, et qui peut servir à leur pays et à l'Occident tout entier. Ce qui surtout l'a fait changer d'avis, c'est la liste des Français collaborant avec le KGB, dont Bourdiol. Quelque chose se révolte en elle vis-à-vis de ceux qui trahissent. Claude accepte de passer tout un dimanche après-midi au bureau de Thomson CSF pour aider son mari à photocopier le gros dossier. Là, je fais une petite parenthèse. Pourquoi Claude Hamel a-t-elle changé d'avis ? On ne m'empêchera pas de penser qu'il y a eu ici un petit coup de pouce du Saint-Esprit. Autre problème difficile, l'expédition. La première lettre à Prévost est partie avec la valise diplomatique. Pour envoyer les photocopies de certains dossiers, Hamel profite du départ d'une délégation de Thomson CSF composée de VIP et exemptée du contrôle douanier. Toutefois, Xavier a pris soin de ne laisser aucun mot de lui dans les deux grosses enveloppes adressées à Jacques Prévost. Mais cette fois, il n'a pas de solution immédiate pour expédier les photocopies du gros dossier. Aussi va-t-il voir un fonctionnaire du service commercial de l'ambassade. Il lui raconte une histoire d'appel d'offres inexistant pour des faisceaux hertziens. Bien que le représentant de Thomson CSF n'ait pas le droit d'envoyer des documents, mais seulement des lettres, la grosse enveloppe, cachetée, partira tout de même ainsi. Puis de nouvelles délégations de VIP de la société viendront à Moscou et le problème sera réglé jusqu'à la toute dernière livraison. Et les rendez-vous secrets se poursuivirent. L'excitation des premiers contacts étant passée, les deux hommes se parlèrent plus spontanément.
« Vous ne regardez jamais si vous êtes suivi ?»
Plus tard, Hamel dira à Costine.
« Nous ne prenions pas de précautions, et c'est justement pour ça que ça a réussi. »
De même, Farwell n'a jamais demandé à être rémunéré au début. Aussi curieux que ça puisse paraître. De temps en temps, Hamel lui faisait des petits cadeaux. Une bouteille de whisky, très difficile à trouver en Union soviétique, ou de vodka, par-ci, par-là, ou de produits impossibles à trouver tels que un réveil matin électrique, une calculatrice, ou des petits bijoux qu'il offrait ensuite à Ludmilla. Lorsque Xavier Hamel prit l'avion pour Paris, il avait avec lui un gros dossier qu'il avait photocopié, mais trop volumineux et qu'il n'avait pas eu le temps d'envoyer par la valise diplomatique. Il le tenait sous le bras et ne l'avait pas mis dans ses bagages en soute. Et le voilà qui sourit devant le douanier soviétique alors que ses affaires passaient au rayon X. Coup de chance, on ne lui demanda pas d'ouvrir sa serviette. Le risque qu'il prenait était élevé. Mais il était descendant d'un baron d'empire et les aristocrates ont intériorisé une certaine désinvolture ou un détachement ironique à l'égard des événements. On leur apprend, dit-on, si par malheur ils sont piqués par une guêpe à table, à poursuivre leur conversation comme si de rien n'était. Détendu et insoupçonnable. Est-ce le trait de caractère qui endormit le douanier? Une fois de retour, Hamel remit les documents au chef de la DST, qui réalisèrent la mine d'or qui leur était ainsi offerte. Ces derniers prirent deux décisions. D'abord, sortir Hamel du circuit car le travail était trop risqué pour un tel dilettante non averti et le remplacer par un pro qu'il présentera à Farewell. Ensuite, faire couvrir le couple Hamel par des passeports diplomatiques pour les faire bénéficier d'une immunité en cas de pépin. Mais, surprise, Hamel refusa. Et, deuxième surprise, convainquit les chefs que c'était une mauvaise idée.
Si, du jour au lendemain, moi qui suis un haut cadre commercial chez Thomson, je me trouve bénéficier d'une immunité diplomatique. Cela va attirer l'attention du KGB, et qui pourrait en pâtir, je vous le demande.
Farewell, bien sûr, vous avez raison.
Mais je vous demanderai plutôt de ne pas exploiter tout de suite les renseignements que je vous ai donnés, car il faut éviter que cela ne les alerte. Bourdiol, par exemple, la taupe du KGB, ne l'arrêtez pas tout de suite et attendez un peu.
Mais Bourdiol est dangereux et peut continuer de nuire. Mais j'ai une solution. Nous allons lui accorder une promotion en le mutant à un autre poste, mieux rémunéré, mais où il aura moins accès à nos secrets.
Bien, mais il y a autre chose de gênant. Il ne faudrait pas que cette affaire, quand elle éclatera, vienne nuire à la réputation de Thomson vis-à-vis des soviétiques, car nous avons de gros marchés avec eux. Je me dois de prévenir mon président.
Faites-le en termes discrets.
C'est ce qu'il fit.
Nous sommes entraînés, malgré nous, avec la DST, dans une affaire très importante pour la sécurité de la France et de tout le monde libre. Pouvons-nous continuer?
Et le président, qui mérite que l'on cite son nom, Jean-Pierre Buissonni, donna son aval alors que sa société risquait d'y perdre. À cette époque, l'intérêt du pays et du monde libre passait avant les affaires de gros sous. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Je pose au passage la question, sans prétendre y répondre. Ce fut un certain Ferrand qui prit le relais et rencontra Vetrov dans sa voiture le 1er mai 1981. Ils s'en allèrent en dehors de la ville de Moscou vers l'université Lomonossov. Ferrand proposa un plan.
« Je viens ici pour une gymnastique matinale et je laisse la vitre de ma voiture entrouverte pour que vous y glissiez vos documents. »
« Pas question. La zone ici est très surveillée par les services secrets qui ont déjà arrêté des gens au moment où ils remettaient des documents. Et puis, on l'a construit derrière le mur des datchas pour des dirigeants. On y accueille des hôtes de marque en visite officielle ou de responsables des partis frères. Il y a des raisons de craindre un attentat. C'est pourquoi il y a en permanence beaucoup d'observateurs qui surveillent nuit et jour. »
« Mais cet endroit présente de nombreux avantages. »
Écoutez, depuis toutes ces années, je connais ces lieux, en tout cas plus que vous.
Mais...
Faites ce que je vous dis et tout se passera bien. Tenons-nous-en au lieu de rendez-vous habituel, derrière le musée de la bataille de Borodino.
D'accord. Mais le problème avec moi, c'est qu'en centre-ville, je suis constamment surveillé par eux et c'est difficile de les semer. Il serait plus prudent que je vous envoie une femme, la femme d'un de nos diplomates, quelqu'un de sûr. pourriez la voir au marché de Tcheriomouchki.
Une femme? Mais c'est de l'amateurisme. On n'envoie pas de femme au casse-pipe, voyons.
Si, si. Nous avons expérimenté de telles situations dans ce marché et ça a toujours marché.
Vetrov réfléchit. Il sait qu'en effet, malgré l'importance de ses effectifs, le contre-espionnage soviétique n'a pas la possibilité matérielle de filer les femmes. D'autre part, il est possible que le marché de Tcheriomouchki ait été autrefois balisé par les services secrets français pour contacter leurs agents étrangers. Vetrov connaît l'endroit, c'est un des marchés kolkhoziens les mieux approvisionnés de la capitale. Et il y va de temps en temps pour acheter des primeurs. Ferrand prend un bout de papier et dessine un schéma. Il propose que la remise de documents par Vetrov ait lieu devant la sortie du marché donnant sur la rue Vavilov tous les vendredis à 11h précises.
Elle s'appelle Marguerite, elle aura un panier à la main avec des fines herbes par-dessus les légumes.
Cet indice suffit en principe. Les soviétiques ne font jamais leurs provisions avec un panier. Mais d'un autre côté, rien que pour ça, le marché n'était pas une bonne idée, car la qualité d'étrangère de Marguerite était évidente pour tout le monde. En outre, même si la Française et Vetrov n'étaient pas filés, beaucoup d'étrangers faisaient leur marché à Tcheriomouchki. Il suffisait qu'un diplomate français sous surveillance du KGB y amène à ses trousses une équipe de pisteurs pour que tout le montage soit déjoué. Leurs yeux expérimentés auraient aussitôt capté une autre Française. Les piétineurs connaissaient de vue toute la colonie. En la voyant monter dans la voiture de Vetrov, ils auraient automatiquement noté le numéro de sa plaque d'immatriculation et se seraient renseignés sur son propriétaire. Le choix du point de rencontre n'était donc pas idéal. Mais il fut accepté et il n'y eut pas de problème. Après, il fallait photocopier ou photographier les documents et les rendre ensuite le lendemain en un autre endroit sélectionné par le Russe. Ce procédé doublait le nombre de rencontres et donc doublait les risques. Aussi, peu après, Ferrand lui donnera un Minox. C'est un appareil miniature qui peut photographier même sous un très faible éclairage pour qu'il puisse transmettre directement les bobines de pellicule sans avoir à revenir à un deuxième rendez-vous pour restituer le document. Par la suite, certains disent que la CIA, quand elle s'est mise à collaborer avec la DST, aurait procuré un appareil miniaturisé avec des pellicules très perfectionnées utilisées dans les satellites. Ferrand l'aurait donné à Vetrov.
Cet appareil vient de la CIA, n'est-ce pas?
Je l'ignore.
Écoutez, Paul, ne me prenez pas pour une brêle. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Un professionnel de l'espionnage technologique sait reconnaître les instruments. Si je travaille avec vous, qui êtes plus discret, plutôt qu'avec les Américains, c'est pas un hasard. Pourquoi les avez-vous mêlés à notre affaire?
On ne les a pas mêlés. On a juste cet appareil.
Oui,
grommela Vetrov, méfiant et vexé. La CIA avait averti la DST que les pellicules ne pouvaient être développées que par eux, dans un laboratoire spécialisé, et avait insisté pour recevoir toutes les photographies, ce que la DST ne fit pas. Elle réussit, avec l'aide de l'entreprise privée Kodak, mais sans celle des Américains, à développer les clichés. C'est ce que rapporte un documentaire de la BBC de 2011.
This is BBC Radio Clwyd from Mold, broadcasting on 657 kHz medium wave to North East Wales.
Kodak announces a whole new way to make pictures. Introducing disc photography.
Au marché, Vetrov devait rencontrer une certaine Marguerite, qui n'est autre que Madeleine Ferrand, l'épouse de Patrick Ferrand. Ce fut elle qui assura la plupart des rendez-vous. Qui aurait pu soupçonner cette mère de famille de 5 enfants d'être une espionne recevant des documents ultra secrets et les restituant le lendemain? Au total, 2997 pages de pièces marquées du cachet indiquant le niveau de classification maximal auront été remises par Farwell. Cette livraison arrivait peu après l'accession au pouvoir de François Mitterrand en mai 1981.
Qu'allait faire Mitterrand ? Vous le saurez au troisième épisode. Histoire à la loupe.